Chapitre 3 et 4. Une falaise énorme s'était profilée devant nous. Elle plongeait verticalement si bas que je ne pouvais voir où elle se terminait. Elle était sombre et lisse. Nous ne faisions toujours que monter. Finalement, le sommet de la falaise devint visible. Il ressemblait à un fil d'émeraude aussi tendu qu'une corde de violon. Nous franchissons cette ligne de fête et nous voilà maintenant volant au-dessus d'une plaine herbue que traverse une large rivière. Nous perdons de la hauteur. Les sommets des arbres les plus hauts ne sont plus qu'à 20 pieds au-dessous de nous. Et tout à coup, le bus s'arrête. Chacun bondit de son siège et on n'entend plus que jurons, invectives, coups de poing, tempête de vociférations, bousculades folles de gens pressés de sortir. Un moment encore et tous sont dehors. Demeuré seul dans le bus, j'entends venir à moi par la porte entrouverte le chant joyeux d'une alouette. Je sortis à mon tour et je fus saisi par l'impression que font la lumière et la fraîcheur d'un matin d'été, très tôt, juste avant que le soleil se lève. Il y avait pourtant une certaine différence. J'avais la sensation de me trouver dans un espace élargi, agrandi, ou mieux dans un autre espace que ce que j'avais connu auparavant. C'était comme si le ciel était plus haut et la plaine plus largement ouverte qu'il ne pourrait l'être sur cette petite balle qu'est notre terre. Je me sentais dehors, en un certain sens, je veux dire hors de ce qui fait du système solaire lui-même un espace clos. Cela me donnait un sentiment de liberté, mais aussi celui d'être exposé à un danger, et ce sentiment m'accompagna tout le temps qui suivit. L'impossibilité de communiquer cette impression, ou même simplement d'amener mon lecteur à s'en souvenir, tandis que j'avancerai dans mon récit, fait que je désespère de lui faire comprendre la qualité réelle de ce que j'ai vu et entendu. Mon attention fut d'abord attirée par les autres passagers. Ils étaient restés groupés, non loin de l'autobus. Quelques-uns pourtant se hasardaient à faire quelques pas prudents. J'eus le souffle coupé quand je les vis. Maintenant qu'ils m'apparaissaient en pleine lumière, je les voyais transparents, totalement transparents, quand rien n'arrêtait la lumière, légèrement opaques s'ils se tenaient à l'ombre d'un arbre. Ce n'étaient plus que des fantômes, des ombres à forme humaine se détachant sur la luminosité de l'air. On pouvait faire attention à eux, ou aussi bien les ignorer, comme on peut voir ou ne pas voir la poussière sur une vitre. Je remarquai que l'herbe ne s'inclinait pas sous leurs pas, et que même les gouttes de rosée n'en étaient pas dérangées. Mais soudain, mon esprit sembla s'adapter, à moins que ce ne fussent mes yeux, et le phénomène tout entier se renversa. Les hommes, les femmes redevenaient tels qu'ils avaient été auparavant, tels en somme que je les avais connus. C'était la lumière, l'herbe, les arbres qui étaient différents, faits d'une autre substance. Ils étaient d'une densité telle que les hommes, en comparaison, semblaient des fantômes. Mû par une pensée soudaine, je me penchai pour cueillir une pâquerette qui poussait là. La tige ne voulut pas se rompre. J'essayai de la tordre. Je n'y parvins pas. Je tirai de toutes mes forces, au point que la sueur me coula du front et que j'y laissai un peu de peau de mes mains. La petite fleur était aussi dure, je ne dis pas que du bois ou de l'acier, mais que du diamant. Une feuille gisait dans l'herbe tout auprès, une feuille de hêtre, jeune et tendre. J'essayai de la ramasser. J'arrivais, je crois, à la soulever un peu, mais mon cœur faiblit sous l'effort et je dus la laisser tomber. Elle était plus lourde qu'un sac de charbon. Tandis que, tout haletant, je reprenais à grand-peine mon souffle, regardant la pâquerette, je remarquai que je pouvais voir l'herbe non seulement entre mes pieds, mais à travers eux. Moi aussi, j'étais un fantôme. Qui me donnera les mots qu'il faut pour traduire la terreur que m'inspira cette découverte? Fichtre, pensais-je, j'y suis pour de bon, cette fois. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, geignit une voix de femme. Cela me donne le cafard. Un des fantômes avait bondi derrière moi et était rentré dans le bus. On ne le revit plus. Les autres semblaient incertains. « Pardon, monsieur, » dit le colosse en s'adressant au chauffeur. « Quand devons-nous être de retour ? » ?»« Vous n'avez pas besoin de revenir si vous ne le désirez pas. Restez aussi longtemps que vous le voudrez. » Il y eut un silence embarrassé. « C'est tout simplement ridicule, me souffla quelqu'un à l'oreille. Celui qui me parlait ainsi était un des spectres les plus calmes et les plus respectables. Il s'était glissé auprès de moi. « L'organisation, continua-t-il, laisse visiblement à désirer. Cela a-t-il du bon sens de laisser ces individus traîner ici toute la journée? Regardez-les, ils n'éprouvent aucun plaisir. Ils seraient beaucoup mieux chez eux. Ils ne savent même pas quoi faire. Je ne le sais pas très bien moi-même, dis-je. Que faisons-nous, finalement ? Moi, je suis attendu. On va venir d'un moment à l'autre. Je n'ai pas à m'inquiéter. Mais il est plutôt déplaisant de voir, dès le premier jour, l'endroit encombré par une foule de touristes. Après tout, ce qu'on cherche en venant ici, c'est surtout à les éviter. » L'homme respectable s'éclipsa, et je me mis à regarder autour de moi. Il avait fait allusion à une foule. Or, devant moi, s'étendait un désert si vaste que j'avais peine à discerner le groupe de fantômes à l'avant-plan. La couleur verte et la lumière les avaient presque avalés. Mais dans le lointain, j'apercevais quelque chose qui pouvait aussi bien être une accumulation de nuages qu'une chaîne de montagnes. De temps en temps, il me semblait y distinguer des forêts en pente, des vallées qui se perdaient dans l'infini, des villes même perchées sur des sommets inaccessibles. À d'autres moments, tout redevenait indistinct. La hauteur de cette masse était si énorme qu'à l'état de veille, je n'aurais pu en aucune manière l'embrasser du regard. Au sommet, la lumière semblait se préparer à jaillir. Elle tombait jusque dans la plaine et traçait derrière les arbres de longues traînées d'ombre. Mais les heures avaient beau s'écouler, aucun changement ne se produisait. Promesse ou menace, le lever du soleil se faisait toujours attendre. Il se passa un long moment. Puis je vis des gens venir vers nous. Comme ils brillaient tous d'une vive lumière, je les aperçus alors qu'ils se trouvaient fort loin encore. Mais d'abord, je ne me rendis pas compte qu'il s'agissait de gens. Peu à peu, ils se rapprochèrent. La terre tremblait sous leurs pas, tandis que leurs pieds s'enfonçaient fermement dans le gazon humide. Un fin brouillard s'élevait de celui-ci et une odeur douce en sortait à mesure qu'ils y marchaient. Les uns étaient nus, les autres vêtus de longues robes, mais les premiers ne semblaient pas moins parés que les autres, et chez ces derniers, le vêtement qui les couvrait ne dissimulait aucunement leur puissante musculature et la douceur nacrée de leur peau. Quelques-uns d'entre eux portaient la barbe, mais on aurait été bien en peine de donner un âge à chacun. Chez nous aussi, on entrevoit parfois chez quelqu'un un rien qui dément son âge, expression de gravité sur le visage d'un jeune enfant, joie enfantine dans les yeux d'un vieillard. Ici, il y avait de cela chez tous. Ils s'avançaient d'un pas ferme, et cela ne me disait rien de bon. Deux de mes compagnons poussèrent un cri en les voyant et coururent se réfugier dans le bus. Les autres et moi-même, nous nous serrâmes les uns contre les autres. Plus les êtres opaques approchaient, plus je remarquai qu'ils se mouvaient avec ordre et détermination. On eût dit que chacun d'eux avait repéré son homme parmi le groupe d'ombre que nous formions. « Il va se passer des scènes attendrissantes, me dis-je. Il ne convient pas que j'assiste. » Et je m'éclipsai sous le vague prétexte d'explorer le pays. Il y avait à ma droite un bouquet de cèdres de taille imposante. Il me parut attirant et j'y pénétrai. Mais se déplacer était difficile. L'herbe était dure, je l'ai dit, comme le diamant. Pour mes pieds sans substance, c'était comme si j'avais marché sur un sol rocheux et plein d'aspérités. J'en souffrais un peu, comme la sirène dans le conte d'Andersen. Un oiseau passa devant moi. Je l'enviais, car lui, du moins, était du pays et avait la même réalité que le gazon. Sous son poids, les fleurs s'inclinaient et il pouvait s'asperger de rosée. Presque tout de suite, je fus suivi par celui que j'ai appelé le colosse. Je devrais plutôt dire le spectre colosse. Lui-même était suivi par un des êtres rayonnants de lumière. « Ne me connais-tu pas ? » lui cria ce dernier. Ce fut plus fort que moi. Je me retournai et prêtai attention. L'être opaque était de ceux qui portaient une robe. L'expression de son visage était si enjouée, si pleine de jeunesse, qu'elle me donna envie de danser. « Eh bien, voilà qui est fort !» s'exclama le spectre. « Je n'aurais jamais cru. C'est renversant. Ce n'est pas bien, tu sais, Hélène. Et ce pauvre Jack, peut-on savoir ? Tu as l'air rudement content de toi. Mais je le répète, Qu'en est-il de ce pauvre Jack ?
« Il est ici, » dit l'autre. « Tu le verras bientôt si tu restes. »«
Mais tu l'as descendu. »«
C'est vrai, je l'ai tué, mais tout est bien maintenant. » »«
Tout est bien, pour toi peut-être, mais pour ce pauvre type, il est bel et bien mort et enterré. »
« Il ne l'est pas, je te l'ai dit, tu le verras bientôt. Il te fait dire toutes ses amitiés. »«
Ce que je voudrais bien comprendre, c'est comment tu es ici, heureux comme un roi, toi, un foutu assassin, tandis que moi j'ai passé des années à traîner dans les rues, là, en bas, et à vivre dans un vrai taudis. »
« C'est de fait un peu difficile à comprendre, mais tout cela est terminé maintenant. Tu seras bientôt satisfait. Pour le moment, inutile de t'en faire à ce propos. »«
Inutile de m'en faire ? N'as-tu pas honte de parler ainsi ? N'as-tu pas honte de toi-même ? » ?»«
Non, du moins, pas comme tu veux dire. Je ne fais plus attention à moi-même. J'ai renoncé à moi-même. Il fallait que je le fasse après le crime. C'est l'effet qu'il a eu sur moi, et c'est ainsi que tout a commencé. »
« Personnellement, dit le colosse avec une emphase qui contredisait le sens habituel du terme « personnellement », j'aurais pensé que toi et moi, nous devrions nous trouver l'un à la place de l'autre. C'est là mon avis personnel. »«
Probablement, ce sera bientôt comme cela, reprit l'autre. Tâche seulement de ne plus y penser. »«
Regarde-moi, dit le spectre en se frappant la poitrine, mais le coup ne fit aucun bruit. « Regarde-moi !» J'ai marché droit toute ma vie. Je ne dis pas que j'ai été un homme religieux, ni que j'ai été sans défaut, loin de là. Mais j'ai fait de mon mieux à l'égard de tout le monde. Voilà le type que j'ai été, moi. Je n'ai jamais rien réclamé sans avoir le droit de le faire. Si je voulais boire un verre, je le payais. Et si je touchais mon salaire, c'est que j'avais fait mon travail. Voilà le genre d'homme que j'étais. Je n'ai pas peur de le dire.
Tu ferais mieux de ne pas continuer sur ce ton pour le moment.
« Qui est-ce qui continue ? Je ne discute pas, moi. Je te dis seulement quelle sorte d'homme je suis. Je ne réclame pas autre chose que ce qui m'est dû. Tu crois peut-être que tu peux me traiter de haut, parce que maintenant tu es habillé comme tu ne l'as jamais été auparavant, quand tu étais sous mes ordres, et que moi je ne suis qu'un pauvre homme. Mais bon sang, j'ai mes droits, moi, aussi bien que toi. »
« Oh non, les choses ne vont pas si mal que ça. Si moi j'avais obtenu ce qui m'était dû... « Je ne serai pas ici. Ne crois pas que tu obtiendras ce qui t'est dû, toi non plus. Tu trouveras ici beaucoup mieux. N'aie pas peur. »«
C'est là justement ce que je dis. Je n'ai pas obtenu ce qu'on me doit. J'ai toujours fait de mon mieux. Je n'ai jamais rien fait de mal. Et je ne vois pas pourquoi. Je devrais être mis au-dessous d'un foutu assassin comme toi. »«
Qui sait où tu seras ? Sois joyeux seulement et viens avec moi. »«
Pourquoi t'obstines-tu à discuter ? Je ne fais que te dire quelle sorte de type je suis. Je ne veux qu'une chose, qu'on reconnaisse mes droits. Je ne mendie pas votre sacrée charité. »
C'est pourtant ce qu'il faut faire. Tout de suite, implore la sacrée charité. Ici, on peut tout demander, mais on ne peut rien acheter.
Tout cela, c'est peut-être bon pour toi. S'ils veulent garder un foutu assassin comme toi, parce qu'il a fait une drôle de tête au dernier moment, c'est leur affaire. Mais laisse-moi te dire que je n'ai pas envie de prendre le même bateau que toi. D'ailleurs, pourquoi devrais-je le faire ? La charité, je n'en veux pas. Je suis un homme bien, moi. Et si j'avais obtenu ce qui m'est dû, il y a longtemps que je serais ici. Cela, tu peux le leur dire. »
L'autre secoua la tête. « Tu n'y arriveras jamais comme ça, » dit-il. « Tes pieds ne deviendront jamais assez durs pour fouler l'herbe que nous avons ici. Tu serais à bout de force avant d'arriver au pied des montagnes. » Et puis, tu sais, ce n'est pas tout à fait vrai. » Une lueur de gaieté dansa dans ses yeux.
« Qu'est-ce qui n'est pas vrai ? » interrogea l'autre d'un ton rogue.
« Que tu étais un homme bien et que tu as fait de ton mieux. Cela n'est vrai de personne, Dieu merci. Cela n'a aucune importance. Pas besoin d'entrer maintenant dans tous ces détails. »
« Toi, siffoqua le colosse, tu as le culot de me dire que je n'étais pas un type bien. »
« Bien sûr. » Est-ce que je dois entrer dans les détails ? Je vais te dire une chose. Tuer le vieux Jacques, ce n'est pas le pire de ce que j'ai fait. Cela n'a duré qu'un instant, et j'étais à moitié fou quand je l'ai fait. Mais je t'ai assassiné, toi, dans mon cœur, des années durant, et cela délibérément. Il m'est arrivé de passer des nuits entières à imaginer ce que je te ferais si j'en avais l'occasion. C'est là justement pourquoi on m'a envoyé à toi, pour te demander pardon et être ton serviteur aussi longtemps qu'il t'en faudra un, et même plus longtemps si cela te plaît. J'étais le plus mauvais de ceux qui travaillaient sous tes ordres, mais les autres pensaient comme moi. Tu nous menais la vie dure, tu sais, et tu la menais dure à ta femme et à tes enfants.
Mêle-toi de tes affaires, jeune homme. Ça ne te regarde pas. Je ne suis pas disposé à accepter tes insolences à propos de ma vie privée.
Il n'y a pas de vie privée.
Je vais te dire autre chose. Tu peux décamper. Je n'ai pas besoin de toi. Je ne suis peut-être qu'un pauvre homme, mais je n'accepte pas de devenir copain avec un criminel, encore moins de recevoir des leçons de lui. Tu dis que je vous ai mené la vie dure, à toi et à tes pareils. Si je t'avais de nouveau chez moi, je saurais bien te montrer ce que c'est que de travailler.
Viens me le montrer, dit l'autre avec un rire dans la voix. Ce sera gai de partir ensemble pour la montagne, mais le travail ne manquera pas.
Tu ne t'imagines quand même pas que je vais aller avec toi?
Ne dis pas non, tu ne parviendras jamais là-haut tout seul, et c'est moi qu'on a envoyé vers toi pour t'y conduire.
Voilà donc l'astuce, s'écria le spectre, apparemment amer, et pourtant il y avait une sorte d'accent de triomphe dans sa voix. On l'avait pressé de venir. Il pouvait refuser, et cela semblait lui donner un avantage sur son interlocuteur.
Je me disais bien qu'il y avait derrière tout cela une satanée manigance. Vous n'êtes tous qu'une clique, une sacrée clique. Dis-leur que je ne viendrai pas.
Que Dieu me damne si je pars avec toi. Je suis venu ici pour faire valoir mes droits.
Tu le sais bien. Et non pas pour quémander la charité en pleurnichant et en m'accrochant à tes jupes. S'ils sont trop délicats pour m'accueillir sans toi, je retourne chez moi.
On le sentait presque heureux de pouvoir en quelque sorte menacer.
« Voilà ce que je vais faire, » répéta-t-il. « Je vais retourner chez moi. Je ne suis pas venu ici pour me faire traiter comme un chien. Je m'en vais. Voilà ce que je fais. Au diable, votre maudite bande !»
Finalement, il se décida à partir, toujours grommelant, mais non sans pousser quelques gémissements tandis qu'il se frayait un chemin dans l'herbe drue et rude.